Mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales et mieux recueillir leurs plaintes, le gouvernement annonce ses premières mesures. Fiona Mogadam est à Matignon pour France Culture. Jean-Paul Delevoye entre au gouvernement, une nomination technique pour que le haut-commissaire puisse continuer à piloter la réforme des retraites. Jean-Baptiste Djebbari devient lui secrétaire d'État aux transports. Ambiance électrique à Westminster, Boris Johnson refuse d'envisager un nouveau report du Brexit. Les anti-no deal ont bien l'intention de l'y contraindre. Nous joignons Antoine Gignot à Londres. Et puis en Espagne, le socialiste Pedro Sanchez tente une nouvelle fois d'obtenir le soutien de la gauche radicale. S'il échoue, il faudra organiser de nouvelles élections législatives. Plus de 100 femmes sont déjà tombées depuis le début de l'année sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Face à ce chiffre brandi par les associations mobilisées contre les violences faites aux femmes, le gouvernement répond qu'il est lui-même engagé dans la lutte contre les féminicides. Ce matin, le chef de l'État a passé 2 heures au standard du 3919, la plateforme téléphonique d'accueil des violences conjugales. Et cet après-midi, s'est ouvert à Matignon un Grenelle des violences conjugales. En ouverture de cette grande concertation, le Premier ministre a annoncé une série de mesures, Fiona Mogadam, avec 4 priorités, mettre les femmes à l'abri, les éloigner de leur agresseur, les protéger lors du parcours judiciaire et protéger également les enfants.
Dans son discours d'une demi-heure et après avoir écouté les témoignages très forts de 2 proches de femmes victimes de féminicide, le Premier ministre a tenté de convaincre les nombreuses représentantes d'associations venues pour ce Grenelle. Parmi les annonces attendues, la création de places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences.
Les femmes qui restent avec un conjoint violent s'y résignent en général, faute de moyens matériels et financiers, pour partir avec leurs enfants. Nous allons donc mobiliser 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence. Il ne s'agira pas d'un hébergement d'urgence dans une structure collective. Elles pourront y rester entre 6 mois et 1 an.
Les associations, elles, réclamaient 2000 places d'hébergement. Anne-Cécile Maillefer, la présidente de la Fondation des Femmes.
Du côté de l'hébergement, c'est un peu en deçà des besoins réels. Et donc ça, on sait que l'hébergement, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc c'est ce qui est le plus difficile aussi parfois à gagner. Ça nous conforte dans l'idée qu'il faut continuer à travailler d'arrache-pied pour sensibiliser l'opinion publique et pour sensibiliser les ministres sur ce qu'il faut faire pour améliorer la situation.
Édouard Philippe a également annoncé la mise en place d'un bracelet électronique anti-rapprochement, l'expérimentation de procédures judiciaires d'urgence, la suspension de l'autorité parentale dès l'ouverture d'une enquête pour féminicide, ainsi qu'un audit dans 400 commissariats et gendarmeries pendant toute une année pour comprendre ce qui ne fonctionne pas dans la prise en charge des victimes, largement insuffisant pour Caroline Dehas du collectif Nous Toutes.
On est venu, on a vu, on est déçu. On attendait une mobilisation massive pour en finir avec les violences. On a un empilement de mesures. Certaines mesures sont positives, mais c'est pas un empilement de mesures qui fait une politique publique pour en finir avec les violences. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun moyen mis sur la table. Le Premier ministre refuse de répondre à cette question, comme si les moyens n'étaient pas la question centrale. Il y a plus de 100 femmes qui ont été assassinées depuis le début de l'année. On n'a pas le temps d'attendre 2020 pour faire des audits et 2021 pour mettre en place des mesures.
C'est un budget entre 500 millions et 1 milliard d'euros qui aurait été nécessaire pour les associations. Réponse du Premier ministre cet après-midi. Ce n'est pas la bonne façon de regarder le sujet.
Fiona Mogadam, à Matignon, les associations féministes déçues et des familles de victimes aussi. Certaines d'entre elles, initialement conviées à Matignon, ont finalement été invitées à rester chez elles. Elles ont tout de même défilé aujourd'hui à Paris pour dire « féminicide, infanticide, ce n'est plus possible ». Une trentaine de personnes arborant des portraits de victimes ont marché jusqu'à Matignon au son de la marche funèbre de Frédéric Chopin. Et là, Cécile de Kervasdoué a rencontré Pauline, 39 ans, qui a échappé au coup de son conjoint.
Moi, je suis là parce que je milite contre les violences conjugales. J'ai failli être tuée aussi par féminicide. Mais en fait, moi, j'ai vécu 3 ans de violences conjugales avec un conjoint d'origine indienne. Et du coup, ça a commencé par de la violence psychologique, être rabaissé, humilié. Il était très condescendant. Puis les coups sont rapidement arrivés. J'ai tenté de partir 3 fois. Et du coup, à la 3e, je fus la bonne parce que malheureusement, il a tenté de me tuer en m'étranglant et en m'ouvrant le crâne. Donc aujourd'hui, je me bats contre ça. Je dénonce ces faits. Je dénonce les mesures qui ne sont pas prises. Excusez-moi. Et voilà, maintenant, il faut qu'on nous entende, il faut qu'on nous écoute. On n'est pas entendu, on n'est pas pris au sérieux quand on dépose plainte. Moi, j'ai appelé la police une fois, à 23h30. Avant cela, j'avais tapé chez les voisins pour appeler à l'aide. Et ce qu'on m'a dit au niveau de la police, c'est qu'il n'y avait pas de voiture de patrouille et que ce n'était qu'une querelle d'amoureux et que tout allait s'arranger alors que je venais de me faire fracasser la tête, quoi. Alors quand on me dit oui, c'est comme ça depuis les nuits des temps, non, je suis pas d'accord. À un moment donné, il faut que ça change. Et c'est maintenant, pas dans un an, pas dans deux ans, pas dans trois ans, c'est maintenant.
Le témoignage de Pauline. Les conclusions du Grenelle des violences conjugales doivent être présentées le 25 novembre à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et à 18h20 aujourd'hui sur France Culture, ce sera le temps du débat autour de cette question. Le viol est-il le tabou ultime des violences faites aux femmes ? À deux jours de la reprise des négociations entre exécutifs et partenaires sociaux sur la réforme des retraites, le haut commissaire chargé de ce dossier, Jean-Paul Delevoye, fait son entrée au gouvernement. Il travaillera aux côtés d'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir.
Jean-Paul Delevoye ne sera ni ministre ni secrétaire d'État, il va rester haut commissaire.
Oui, c'est ce qu'il indique lui-même dans une interview au quotidien régional La Voix du Nord, publiée en début d'après-midi. Ayant commencé comme haut commissaire, explique-t-il de façon très succincte, il est logique que je poursuive mon travail comme tel. Il conserve donc le même titre et les mêmes fonctions qu'auparavant, avec cette différence qu'il assistera au Conseil des ministres quand il sera question d'évoquer le dossier des retraites. Il n'est pas courant qu'un membre du gouvernement ne soit pas ministre ou secrétaire d'État, mais ce n'est pas une nouveauté. Martin Hirsch a occupé cette fonction du temps de Nicolas Sarkozy dans le gouvernement de François Fillon entre 2007 et 2010. Il était haut-commissaire aux solidarités actives et membre du gouvernement. Pour trouver un autre exemple, en revanche, il faut remonter beaucoup plus en amont, au tout début de la Ve République, en 1958, avec Maurice Herzog, haut-commissaire chargé de la jeunesse et des sports. Ce titre correspond à une fonction beaucoup plus technique que politique. Un haut-commissaire, c'est quelqu'un qui porte une commission. Autrement dit, on charge d'une mission dans un cadre temporaire, en l'occurrence pour Delevoye, la réforme des retraites. Ça fait deux ans qu'il la prépare. Là, on s'apprête à entrer dans la phase législative et cette nomination au gouvernement va lui permettre de défendre le projet de loi devant les parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le titre de ministre pour Jean-Paul Delevoye n'est apparemment pas le plus important. L'important étant pour lui qu'il puisse porter cette réforme jusqu'au bout. Enfin, il y a peut-être aussi une petite concession faite à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et des Solidarités, très jalouse de son périmètre et qui, ayant la charge du budget de la Sécurité sociale, entendait conserver la tutelle sur cette réforme, ce qui est le cas avec cette nomination.
Stéphane Robert, et pour épauler la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, le député La République en marche, Jean-Baptiste Djebbari, doit hériter du portefeuille des transports. Il a été le rapporteur de la réforme de la SNCF l'an dernier. Bisphénol, phtalate, solvant et parabènes, six polluants du quotidien sont présents dans l'organisme de tous les Français. C'est l'agence Santé publique France qui l'annonce. Elle a mesuré les niveaux d'imprégnation de la population française par six familles de substances présentes dans l'environnement. Et elle a cherché à identifier les sources d'exposition probables, produits ménagers, cosmétiques, emballages alimentaires, etc. Alors on connaît encore mal les effets de ces produits, mais certains d'entre eux sont des perturbateurs endocriniens ou des cancérogènes avérés ou suspectés. Cette annonce est faite le jour même où le gouvernement, à travers Elisabeth Borne et Agnès Buzyn, présentait la nouvelle stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, Véronique Robérotte. Et cette étude n'a pas surpris la ministre de la Santé.
Et non, pour la ministre Agnès Buzyn, donc présente ce matin dans les locaux de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, cette présence de polluants dans l'organisme de tous les Français n'est pas vraiment une surprise. Raison de plus, donc, pour muscler l'action publique face à une contamination généralisée, mais désormais bien d'identifier. Agnès Buzyn.
Nous n'avions pas de vision exhaustive de l'imprégnation des Français vis-à-vis de tout un tas de toxiques. Et donc cette étude, elle permet enfin de connaître la réalité des faits. Il y a peu de pays qui se dotent de ce type d'études et qui les publient en toute transparence. L'idée n'est pas de faire peur à la population parce qu'en réalité on ne connaît pas la signification d'un certain nombre de ces toxiques au seuil auquel ils sont trouvés. Mais aujourd'hui, c'est surtout un enjeu de transparence, un enjeu de qualité de suivi de la population française. C'est un vrai progrès, à la fois en termes de transparence des politiques publiques et en termes de connaissance sur comment nous allons être capables de rassurer les Français et réduire ces contaminants dans l'alimentation, dans notre environnement.
Alors, première priorité de l'acte 2, donc de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, eh bien, c'est établir une liste claire et précise de ces perturbateurs. Une première liste sera rendue publique à la fin de l'année pour informer la population de la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation courante et encourager aussi l'usage de produits de substitution dont il faudra aussi, bien sûr, faire l'évaluation. Roger Genet, le directeur de l'ANSES.
Aujourd'hui, on manque de connaissances sur beaucoup des substances qui sont candidats perturbateur endocrinien. Et donc, il nous faut produire des données scientifiques qui nous permettent d'évaluer ce caractère perturbateur endocrinien, c'est-à-dire, encore une fois, un caractère délétère sur la santé lié à la modification d'une fonction hormonale. On a typiquement, en fait, le bisphénol A, mais on voit bien qu'il a été substitué dans l'industrie par d'autres bisphénols, hein, le S, le M, le P, et qu'il faut absolument qu'on arrive à avoir des données scientifiques permettant d'évaluer toutes ces substances au bon niveau.
Vous avez même des doutes sur leur innocuité. Enfin, ces substituts peuvent être peut-être pires que le produit qui a été montré du doigt.
Potentiellement, si l'évaluation n'est pas faite et si on n'a pas de données, effectivement, on ne peut pas savoir si l'effet est pire ou meilleur que le produit qu'il substitue. Donc c'est important d'avoir une liste qui soit scientifiquement établie.
Particulièrement exposés aux perturbateurs, bien sûr, les enfants, les tout-petits. Un site va être disponible bientôt pour informer les parents. Il faut taper agir-pour-bébé.fr, site très complet.
Véronique Rebérotte, le CSA, gendarme de la radio et de la télévision, et Hadopi, l'autorité de lutte contre le piratage, vont fusionner. C'est en tout cas le souhait du gouvernement qui prépare la réforme de l'audiovisuel. Le ministre de la Culture, Franck Riester, le confirme. Maxime Tellier, le projet de loi prévoit une nouvelle structure de régulation au pouvoir renforcé.
Oui, c'est en fait la fin du CSA tel qu'on le connaît depuis sa création il y a 30 ans, qu'a annoncé le ministre de la Culture lors d'une interview à l'Association des journalistes médias aujourd'hui. Mais alors, fusionner le CSA et Hadopi, pour quoi faire? Eh bien, le CSA qui ne s'occupait que de télévision et de radio, et Hadopi qui ne luttait que contre le piratage sur Internet, eh bien, tout cela est dépassé en raison de la révolution numérique. Le gouvernement n'en a jamais fait mystère. Édouard Philippe l'avait même déjà annoncé le 19 juin à Paris pour l'anniversaire du CSA, justement.
Pour tenir compte de l'évolution de l'environnement des médias et de ce qui ressemble à une extension du domaine de la lutte, il faut sans doute, à tout le moins, rapprocher le CSA et l'Hadopi et approfondir les coopérations entre le CSA et l'ARCEP.
Et l'ARCEP, Autorité de Régulation des Télécoms, qui ne fusionnera pas dans ce nouvel ensemble. Mais ces réorganisations visent en tout cas un seul but. Le gouvernement veut pérenniser le modèle de création à la française, qui veut que les acteurs de l'audiovisuel financent artistes et créateurs. Or, les nouvelles plateformes du numérique, Netflix et consorts, ne le font pas. Avec cette nouvelle structure, la France veut les y obliger. Au fond, c'est la démarcation entre Internet et anciens médias qui saute. Tout cela pour sauver le financement de l'exception culturelle française. La loi sera présentée en novembre en Conseil des ministres et appliquée au mieux l'an prochain.
Maxime Tellier. Rentrée parlementaire sous haute tension au Royaume-Uni, devant la Chambre des communes, Boris Johnson a appelé à rejeter l'initiative des parlementaires hostiles à un Brexit sans accord. Mais le Premier ministre est en difficulté, Antoine Gignoux. Il vient de perdre sa majorité absolue au Parlement avec la défection d'un député.
Et un départ fracassant, oui, en plein milieu d'un discours du Premier ministre. Philippe Lee, membre du Parti conservateur depuis 27 ans, se lève, il quitte ses collègues et il laisse derrière lui un communiqué. « Je suis consterné », dit-il, « le gouvernement utilise la manipulation politique et les mensonges. Je pars chez les libéraux démocrates ». Confusion totale dans la salle. À la tribune, Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition, en profite pour se moquer de Boris Johnson, lâché par son propre camp. Il se coupe, dit-il, de ses amis européens, il perd ses amis ici, ce gouvernement n'a pas de morale et il n'a plus de majorité. En face, Boris Johnson accuse le coup, prend la salle à témoin, essaye de se faire passer pour une victime d'un complot des députés. Ils veulent nous forcer, dit-il, à mendier pour avoir un nouveau report, un report inutile du Brexit. Et puis le Premier ministre se ressaisit. Il menace de nouveau d'exclure de son parti tous les députés rebelles. Il appelle de nouveau à ne pas repousser le Brexit. Le débat officiel n'a pas encore commencé, mais le Parlement est en ébullition.
On vous suit, Antoine Gignoux, en direct de Londres. Selon l'ONU, un Brexit sans accord ferait perdre aux Britanniques l'équivalent de 16,6 milliards d'euros d'exportation vers l'Union européenne et plusieurs autres milliards vers les autres pays. En Italie, les adhérents du mouvement 5 étoiles étaient appelés aujourd'hui à se prononcer sur l'alliance entre leur mouvement et le Parti démocrate. Le vote se déroulait sur Internet via la plateforme Rousseau, l'outil de démocratie directe du mouvement anti-système qui soumet à sa base ses décisions importantes. Mais cette plateforme est assez contesté, Bruce de Gelsin.
Le nombre de votants a dépassé les 56 000 en début d'après-midi. Un record mondial de participation en ligne à un vote politique, expliquait l'un des dirigeants du mouvement. Les 5 étoiles sont aujourd'hui le seul mouvement politique faisant ainsi participer ses militants à des choix aussi importants. Et c'est bien ce que dénonce une partie de la classe politique en Italie et nombre de constitutionnalistes. Cette plateforme privatise la Constitution, est une insulte aux institutions ou encore est contraire à la démocratie participative, dénoncent les pourfendeurs de Rousseau. Aujourd'hui, environ 100 000 personnes sont inscrites et peuvent donc voter 2 ans et demi après son lancement. En peu de temps, la plateforme Rousseau a écopé de 2 amendes par l'autorité italienne qui garantit le respect de la vie privée. La première, de 32 000 euros pour non-protection des données personnelles, car un hacker avait dévoilé les données de plusieurs centaines de personnes. La deuxième, de 50 000 euros il y a 6 mois, car la plateforme était encore jugée trop vulnérable. Les dirigeants du mouvement 5 étoiles n'ont pas toujours suivi le vote des militants, et notamment lorsqu'une candidate à la mairie de Gênes a été plébiscitée par la base, mais pas retenue par Luigi Di Maio, le chef politique du mouvement. Luigi Di Maio qui estime ce soir avoir déjà gagné, car le gouvernement se formera, dit-il, grâce au vote des Italiens inscrits sur la plateforme. Mais à la question de savoir si le résultat est négatif, que se passera-t-il ? Luigi Di Maio n'a pas répondu.
Bruce de Calzin, nouveau correspondant de France Culture à Rome. Et le résultat du vote des adhérents du mouvement 5 étoiles est attendu dans la soirée. La politique espagnole, toujours bloquée plus de 4 mois après les élections générales. À 2 reprises, le socialiste Pedro Sanchez a déjà échoué dans ses tentatives pour obtenir la confiance du Parlement. Aujourd'hui, le président du gouvernement espagnol veut à nouveau négocier avec Podemos, la gauche radicale, non pas pour former un véritable gouvernement de coalition, mais pour s'entendre au moins sur un programme commun. Les explications de Mathieu de Taillac à Madrid.
Depuis juillet dernier, Parti Socialiste et Podemos s'accusent mutuellement de ne pas être parvenus à un accord. Pour la gauche radicale, les socialistes ne leur proposaient que des ministères symboliques, sans pouvoir réel. Pour Pedro Sanchez et ses amis, Podemos préparait un gouvernement dans le gouvernement, incapable de se soumettre à l'autorité du chef de l'exécutif. Podemos voulait reprendre les négociations sur la base de la dernière proposition des socialistes, une vice-présidence du gouvernement et 3 ministères... Mais Pedro Sanchez considère que le projet d'un gouvernement de coalition a échoué et propose une alternative, un gouvernement 100% socialiste qui suivrait un programme commun. Sanchez lui-même a présenté quelques-unes des 370 propositions ce mardi en matière de SMIC, d'encadrement des loyers, de garderies gratuites ou de droit du travail. Aucun poste, en revanche, pour la gauche radicale dans le gouvernement, mais des responsabilités dans d'autres institutions et des mécanismes pour s'assurer du respect du programme. Une proposition au rabais pour Podemos. Son leader, Pablo Iglesias, a indiqué que la seule manière de garantir l'application du programme était d'accueillir Podemos au sein du gouvernement. Chaque parti semble préparer déjà ses arguments pour responsabiliser l'autre d'un éventuel échec des négociations, car si aucun chef du gouvernement est investi par le Parlement d'ici le 24 septembre, de nouvelles élections seront automatiquement convoquées le 10 novembre.
Mathieu de Taillac. Malgré les efforts diplomatiques menés par Emmanuel Macron en marge du G7, le président iranien exclut toujours des négociations bilatérales avec les États-Unis. Et à moins d'une percée d'ici 2 jours avec les Européens, Hassan Rouhani prévient que son pays va réduire ses engagements en matière nucléaire, comme il l'a prévu après le retrait des États-Unis de l'accord de 2015. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, reconnaît aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de choses à régler pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien, Bertrand Galichi.
C'est après avoir avancé dans les négociations que l'on règle les problèmes de chorégraphie, dit Jean-Yves Le Drian, visiblement pas très impressionné après le refus de l'Iran annoncé ce matin de discuter seul à seul avec les États-Unis. L'éventualité d'une rencontre entre les présidents Rouhani et Trump dans les prochaines semaines avait été évoquée à l'issue du G7. Alors, est-ce que ce sera dans un format à 3, à 4 ou à 5 ? Cette question ne doit être réglée qu'à la fin, dit le ministre. Le chef de la diplomatie française s'intéresse plutôt au possible le déblocage d'une ligne de crédit internationale qui pourrait compenser les pertes financières infligées à l'Iran par les sanctions américaines. L'Iran, étranglé par les pressions de Washington, demande 15 milliards de dollars, soit le tiers de la valeur des exportations de pétrole iranienne en 2017. En contrepartie, Téhéran s'engagerait à revenir dans les clous de l'accord sur le nucléaire signé en 2015. L'Iran devrait également consolider la sécurité dans le Golfe, entamer des négociations sur la paix dans la région et sur ses projets nucléaires au-delà de 2025.
Bertrand Galichet, l'ouragan Dorian a été rétrogradé en catégorie 2. Les vents d'une extrême violence et les vagues plus hautes que les toits des maisons ont entraîné la mort d'au moins 5 personnes aux Bahamas, mais il est encore trop tôt pour dresser véritablement un bilan. L'ouragan se dirige actuellement vers les côtes de Floride. Demain mercredi, le temps sera souvent bien dégagé, mais des averses sont possibles sur la Bretagne et la Normandie en matinée, des Pays de Loire aux Hauts-de-France l'après-midi, de l'Aquitaine aux Ardennes en début de soirée. Il fera entre 4 et 18 degrés au lever du jour, l'après-midi 18 à 21 degrés le long des côtes de la Manche et en Bretagne, 25 à 30 sur la majeure partie du pays, jusqu'à 33 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.